le répondeur de Blockbuster. Bonjour Frédéric, bonjour à l'équipe. Je voulais dire un truc par rapport à la Bible. Moi, j'ai adoré en fait lire l'Apocalypse, enfin les révélations de Saint Jean, parce que j'étais une fan absolue des films apocalyptiques ou avec une vision un peu fin du monde, comme dans Donnie Darko, par exemple, dans une version moins catastrophe, mais ça finissait pas très très bien. Du coup, c'était vraiment chouette de pouvoir voir que les scénaristes, ils s'inspirent vraiment de l'Apocalypse. Et du coup, je vous conseille à tous de lire. Voilà, bonne continuation, merci beaucoup.
Oui, bonjour à toute l'équipe de Blockbuster, c'est Maxime. Je me disais que ce serait peut-être intéressant de faire un petit sujet sur Austin Powers, puisque vous passez la musique qui est dans le film, de Smash Mouth. Donc, ça pourrait être intéressant de faire un petit sujet comme ça. Je vous fais des gros bisous et puis merci de nous faire passer un bon été.
To be or not to be, not to be.
La vie, c'est comme une partie de Super Mario. Tu fais des études pour devenir plombier et au final, tu te retrouves à sauter sur des carapaces de tortue ou à donner des coups de boule dans des briques. Mario, il devait travailler avec les mains et au final, il bosse avec sa tête. Mario, il a sûrement été très mal orienté par Parcoursup. Dans Mario, pour prendre un raccourci, il faut que tu passes par un tuyau. Et c'est vrai que pour changer de vie, c'est bien d'avoir un tuyau, de connaître du monde, d'avoir du réseau. Mario, quand il attrape une étoile, il se sent invulnérable. Et l'étoile dans Mario, c'est la dictature des réseaux sociaux, l'étoile supplémentaire sur TripAdvisor, l'étoile en plus au guide Michelin, le like sur Facebook. Tu te sens important, mais comme pour Mario, ça dure qu'un temps. À la première erreur, tu redeviens tout petit. Le reste du monde est prêt à te marcher dessus. Jeune, tu cours après des champignons pour faire comme les autres. Et puis avec le temps, tu passes aux champignons électroniques. Des fois, le monde avance trop lentement pour toi. Et si tu veux aller vite, il va falloir que tu sautes au-dessus des tortues qui t'entourent. Souvent, pendant longtemps dans ta vie, t'es convaincu d'être Mario. Et puis un matin, tu réalises que t'es que Luigi. C'est pas toi qui sauveras la princesse Peach. D'ailleurs, dans la vie, finalement, c'est ça le pire. Être la princesse Peach. Parce que t'as le choix entre te faire enlever par un dino macho ou attendre d'être sauvé par un plombier italien. La princesse Peach, quel que soit ton niveau, finalement, elle est game over.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
$350 millions de jeux Super Mario ont été vendus depuis la création de ce personnage par le génie de Nintendo, Shigeru Miyamoto. Dans une industrie remplie de héros musculeux portant de lourdes épées ou d'Amazones athlétiques armées de mitrailleuses disproportionnées, Mario le plombier fait figure d'anti-héros. Un design tout en rondeur, une salopette, une casquette avec une épaisse moustache noire devenue signature au fil du temps, Mario est un personnage totalement créé pour le plaisir du jeu. Les niveaux, sa mobilité, sa réactivité aux commandes des joueurs, dans Super Mario, quelle que soit l'époque, tout a été pensé pour et par le jeu. Pas de scénario compliqué ou de rebondissement narratif dramaturgique, Super Mario c'est la quintessence du jeu, l'équivalent jeu vidéo des billes ou de la roue. Alors pour évoquer le moustachu le plus célèbre du jeu vidéo, j'ai une très très belle équipe à mes côtés. Tout d'abord Julien Chiez, bonjour.
Bonjour Fred.
Alors vous êtes spécialiste du jeu vidéo et youtubeur gaming, on connaît vos vidéos par cœur si on s'intéresse aux jeux vidéo.
Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que Mario, moi, c'est un personnage qui m'a tellement marqué. Et quand j'entends ses musiques, à chaque fois, je suis transporté. C'est une star.
À nos côtés également, Marcus, qui est de retour.
Ah, tellement content.
On est ravis de vous retrouver.
Que Blockbuster revienne.
Ouais, c'est
au moins l'été.
Vous l'avez fait vivre. Donc, spécialiste du jeu vidéo et journaliste pour jeuactu.com. Et à nos côtés également, Olivier Bénis.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Olivier. Notre monsieur jeu vidéo de France Inter, journaliste de la rédaction numérique de France Inter. Et également, Rui Pasquale, journaliste pour Geek Magazine. Bonjour Rui.
Bonjour.
Alors, vous êtes fan de Mario également?
Oui, effectivement, le plombier italien m'a aussi beaucoup marqué. J'ai effectivement passé beaucoup d'heures, beaucoup de nuits
Pas très sérieusement à jouer, effectivement, à Super Mario.
Alors, avec toute cette joyeuse équipe, on reviendra sur la création de celui qui ne fut pas toujours plombier. On essaiera d'expliquer ce que ce sympathique personnage a amené à l'univers du jeu vidéo. On parlera bien évidemment de tous les genres dans lesquels Mario s'est immiscé avec plus ou moins de succès. Et puis, en fin d'émission, on rendra hommage à un robot géant cher à mon cœur qui est arrivé sur nos écrans il y a 40 ans et à qui la culture geek doit beaucoup. Goldorak. Cette émission a été préparée par Céline Hilla à la réalisation, Marie Mougin et Chloé Brassière à la préparation de l'émission, aidée de Prudence Castello. La programmation musicale est signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui Alexandre Chenet et Loïc Frappsos. Mais pour l'instant, on met sa casquette et sa salopette, on a une princesse à sauver.
Un petit détour par le Japon pour faire connaissance avec le nouveau héros vidéo, la nouvelle star des jeux vidéo qui branche des milliers de petits japonais là-bas. Il s'appelle Super Mario, sans Patrice, créé de toutes pièces par une compagnie de micro-ordinateurs, personnage à la casquette plate, au gros nez et à la moustache caractéristique pour les japonais sans doute, de la péninsule italienne. Avec son frère Luigi, Mario apparaît sur des centaines de milliers de petits écrans. Il est le fruit de l'imagination du dessinateur humoristique Shigeru Miyanota, avec l'accent dans le texte. Et c'est l'enchaînement dramatique, c'est-à-dire les t-shirts, les chaussures, papier à lettre, chocolat, nouilles, glaces et dessins animés à son effigie. Les États-Unis ont déjà acheté 200 000 appareils dotés du logiciel Mario. Planquons-nous, ça va bientôt nous tomber dessus. Ah, j'ai peur.
Shigeru Miyamoto. Olivier Bénis, je crois qu'il y a un rectificatif à faire, non ?
Voilà. Miyamoto, donc, rappelons-le. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y a toujours ce délicieux ton des années 80 quand on parlait de jeux vidéo et qu'on savait pas trop comment prendre ça. Donc,
planquons-nous, ça va nous tomber dessus.
Micro-ordinateur portatif. Enfin, voilà, il y a ce vocabulaire un peu
humoristique.
Oui,
c'est
ça.
Ah, d'accord.
Voilà, alors quand on sait qu'aujourd'hui Miyamoto est presque même au-delà du monde du jeu vidéo reconnu comme un génie dans son domaine, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a créé les plus grosses licences qui aient jamais existé dans le jeu et qui continue encore à être très actif aujourd'hui et à proposer plein de choses. Et donc Mario, ce petit personnage qu'il a porté lui, ce qui est toujours intéressant, moi ce que j'aime bien quand je parle de Mario, c'est commencer par raconter pourquoi Mario est Mario. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le disiez Frédéric, Mario, c'est un personnage dont le design, dont tout l'univers est basé sur le jeu. C'est la quintessence du jeu vidéo, parce que sa moustache, par exemple, c'est lié à la limitation du nombre de pixels sur la console qui fait que dessiner une bouche, ça ressemblait à rien et qu'en fait, avec deux pixels, on faisait une sorte de moustache. La casquette, c'est pareil.
C'est pour ça qu'il n'a pas de raie des fesses, contrairement à tous les autres plombiers. C'est pour les mêmes raisons.
Pour des questions de réalisme, pour ne pas choquer les enfants non plus. Hein, rappelons-le. Voilà, et puis tout comme ça est basé sur le jeu. C'est-à-dire que c'était un jeu de plateforme à l'époque. Enfin, pour nous, aujourd'hui, ça a l'air évident d'aller sur la droite, par exemple, quand on avance, de sauter sur les ennemis et tout, mais à l'époque, fallait en fait non seulement imaginer le truc, mais il fallait se dire comment on fait pour que les gens comprennent qu'il faut faire ça. Et donc, il y avait le premier ennemi qu'on rencontrait qui était un champignon. Un champignon, ça paraît logique, c'est par terre, on marche dessus, c'est la forêt, donc on va sauter dessus. Puis il y a une tortue, on voit que la carapace reste, donc on comprend que la carapace a peut-être un rôle, etc., etc. Et tout est basé comme ça sur comment créer du plaisir de jeu immédiat qu'on peut utiliser comme ça, juste en branchant la console sans même lire le manuel. Et Miyamoto est un génie en particulier pour ça.
Mais Mario, en plus, n'est pas apparu dans Mario.
Non. Non,
c'est un spin-off. C'est le spin-off le plus réussi de tous les temps quand même. Il est apparu dans Donkey Kong. Et Donkey Kong, bah, c'est vraiment le premier jeu de Miyamoto qui a explosé. Quoi. Il voulait faire Popeye au début. Et il pensait avoir Popeye qui allait essayer de secourir Olive. Alors, c'est des vieilles références pour ceux qui n'ont pas connu, mais c'est un cartoon des années 50. Et en haut, il y aurait Brutus, une espèce de gros barbu qui jetait des tonneaux sur lui. Voilà. Il n'a pas pu avoir les droits. Il n'a pas pu non plus avoir les droits de King Kong. Il s'est dit, je ne vais pas prendre les droits, je vais mélanger les deux. Et je vais faire une petite histoire avec ça. C'est la première fois qu'il y avait des cinématiques aussi. C'est-à-dire que le jeu ne démarrait pas directement. Vous voyez le gorille monter en haut de l'échafaudage. Il le piétinait, l'échafaudage s'écroulait un peu. Et après, le jeu commençait. Puis il y avait plusieurs tableaux avec une petite animation entre les deux. Enfin, ça posait les bases de plein de choses. Moi, je dis toujours, Mario, c'est le Charlie Chaplin du jeu vidéo. C'est vraiment le mec qui a tout inventé. Enfin, pas Miyamoto en tout cas, qui a quasiment tout inventé dès le début, en fait, comme Charlie Chaplin a quasiment tout inventé dès le début.
Et comme quoi, un plagiat peut devenir ensuite un chef-d'œuvre reconnu. que bon, Donkey Kong, effectivement, c'était quand même bien, bien repompé sur King Kong sans les droits. Voilà, donc comme quoi, on peut arriver loin en copiant un petit peu chez les autres.
Vraiment, en politique, c'est quelque chose de souvent pratiqué.
Ah, je me prononcerai.
Alors, on va faire une petite pause musicale. On écoute tout de suite Aurel San avec son titre San, tiré de son dernier album, La fête est finie.
À l'origine, Mario était un charpentier. Et puis quand on a créé le jeu, il y avait des monstres qui sortaient des tuyaux. Et qui est mieux placé pour s'occuper de tuyauterie? Naturellement, c'est le plombier.
Je suis dans le premier Mario. À chaque fois, je crois que j'ai fini le jeu, ça repart à zéro. En plus rapide, en plus dur, je devais être plus mûr. J'ai dû me tromper de futur. J'aimerais retrouver la magie du début. Rien ne fonctionne quand le cœur n'y est plus. Ça fait mal à la fierté, j'ai du mal à l'admettre, mais j'ai jamais été aussi perdu. Le monde est un PMU. Où n'importe qui donne son mauvais point de vue. Où la télé passe des infos déjà vues. Pendant que la radio joue des sons qu'on n'écoute même plus. J'essaye de trier entre les snobs pointus et les mongols incultes, je sais plus où cliquer. J'essaye de fitter, rester d'actualité, sans devenir ma propre télé-réalité. Je veux pas rester figé, piégé dans mon personnage comme une prise d'otage à Disney. Mal vieillir comme un vieux punk. Quand tu crois que t'es Bart, mais t'es Monsieur Burns. Je suis pas chez moi dans la capitale. Je continue d'écrire sur une ville où j'habite pas. J'essaie d'être un homme bien, mais je suis plutôt moyen. Je crois que je suis juste un génie du mal. Je regrette mes vieux démons. Roi dans le mensonge, esclave dans le vrai monde. Vigilant à chaque seconde. Si je le laisse seul, mon esprit s'égare dans la pénombre. Je pensais me lever un matin, être un homme. Sûr que la vie que j'ai choisie est la bonne. Fiable, avoir construit quelque chose de stable. Je suis qu'un sale gosse sur un château de sable. Marre de faire des grands sacrifices pour des petites gloires, sans même savoir savourer la victoire. Mes nuits sont blanches, mes idées noires. C'est comme chaque fois que j'ai arrêté de boire et que les journées sont plus que des gueules de bois. Pourquoi tu veux mettre un bébé dans les bras? J'ai déjà du mal à m'occuper de moi. J'essaie d'être droit, de faire des choix, de faire plaisir à tout le monde à la fois. La famille, les amis de la famille, des amis, divertir un public qui me connaît pas. Peu importe ce qu'il croit, je suis toujours à deux doigts du craquage, à deux doigts du pétage de câble. T'étonnes pas si tu me vois marcher dans la rue en pyjama. Mais je craquerai pas, je craquerai pas, je craquerai pas, je craquerai pas. Je pourrais plus m'enfuir, mon frère a deux enfants, je veux les voir grandir. Je veux plus faire semblant, plus jamais mentir. Je suis déjà fou, autant rester dans le délire. Hein, je serai celui qui fait une blague avant de mourir. Celui qui part dans un fou rire. Hein, je veux laisser mon propre souvenir. Pas faire du sou, le mec à la mode en pourri. Hein, les temps changent, les gens changent. Mais je m'ennuie vite, j'aime le changement. J'étais déjà différent, je le serai jusqu'à la nuit des temps. Vie rapide, mec lent. Avant j'avais peur d'être pas normal. Quand je vois les gens normaux, je suis fier d'être pas normal. Le monde est vénéneux. Mon cerveau fait des nœuds, je me fais à l'idée d'aller jamais mieux. Je voulais écrire pour les haineux, mais je vais faire mieux, écrire pour ceux qui m'aiment eux. C'est toujours pour ma ville quand je mets le feu. J'ai tout le reste de ma vie pour être vieux. Où sont passés les stars de ma jeunesse? Morts ou devenus des parodies d'eux-mêmes. Je veux jamais faire pareil. Retour vers le futur, je veux pas rater le troisième. Je veux faire des chansons d'amour homicide qui poussent un célibataire au suicide. J'aimais le rap avant que la hype gentrifie. Vodka Doliprane, maintenant j'anticipe. J'ai dit je t'aime à des connasses qui n'en valait pas la peine, j'ai jamais dit je t'aime à ma mère. Je veux plus faire marche arrière, j'arrive à peine à la fin du début de ma carrière. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses louches. J'ai fait des rappeurs, j'ai fait des fausses couches. Quand je disais c'est nous le futur, je parlais de maintenant. Je parlais de cet instant, le futur c'est maintenant. J'ai tous les flots, je serai jamais sec. À Blaye Scred, je vais jamais perdre. On a commencé dans une salle des fêtes. On va devenir ce qu'on voulait être. Merde, j'arrive en gun kata. Jeune bâtard, meurs voilà. Saitama, punch fatal. J'écris chaque phrase comme si Michael Pou- Vous pouvez voir ça, ce serait pas la médiocrité m'avoir. J'ai vu assez de bâtards tristes pour croire au karma. Aurel San par 3, le dernier volet de la saga. San, ça veut dire 3. San, ça veut dire monsieur. San, j'ai mis la moitié de ma vie pour savoir ce que je veux. La fête est finie.
C'était Aurel San sur France Inter. Aurel San qui est un gros gamer et le rappeur français fera la tournée de tous les festivals cet été. Il sera ce jeudi à Maxéville en Meurthe-et-Moselle, chez moi, c'est moi. Voilà, vendredi au festival Musilac d'Aix-les-Bains, vendredi au Francopholies de La Rochelle et bien sûr dans plein d'autres scènes tout l'été.
Luigi, une panne de lave-vaisselle au grand café du commerce. T'entends ce que je te dis? Ça nous fait un boulot.
Oh, et Mario, Mario, regarde ça. Les miracles de l'univers. Le mec, il dit qu'il s'est retrouvé dans une autre dimension.
Le seul miracle, c'est qu'on arrive encore à bouffer alors qu'on a de moins en moins de blé. Et toi, t'en défenses encore pour ces saloperies. Regarde-moi ça.
Mais il y a un article sur les nanas qui ont disparu en plein Brooklyn.
Ah ouais. Il y en a aussi un sur ce savant, là. Celui qui transforme le cerveau en sauce blanche.
Bah rigole pas, ces trucs-là, ça peut arriver.
Par l'opération du Saint-Esprit.
Tout peut arriver, je te dis. Il suffit d'y croire, c'est tout.
C'était un extrait du film totalement dispensable Super Mario avec Bob Hoskins qui avait joué auparavant dans le formidable Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui interprète Mario. Donc film qui est sorti avec le succès que l'on imagine. Voilà, parce qu'on ne pouvait absolument pas faire un film plus hors sujet. Julien Chiette.
Non, mais ce qui est terrible, c'est que Mario est toujours premier. Il est le premier à ouvrir la voie des jeux de plateforme. Il est le premier à faire un film vraiment adapté de jeux vidéo et faire un gros bide. Mais là où il a ouvert la voie dans le jeu vidéo, en essayant d'imaginer, de créer des codes, là, on sent même que les acteurs s'ennuient, le cadre n'a rien à voir. Enfin, c'est les égouts de Brooklyn, quoi.
Et alors, retournons au jeu, Julien Chiez, c'est à quel âge que vous avez découvert Super Mario?
Moi, je l'ai découvert, je me souviens, avec mes grands-parents, quand on allait au supermarché pour faire les courses. Là, soudainement, j'avais envie d'y aller, parce qu'il y avait une borne NES. Et à l'intérieur, il y avait Mario. Et du coup, je les laissais prendre le caddie, et puis moi, je m'arrêtais nonchalamment, et je regardais, j'étais fasciné. Même si à la maison, on n'avait pas le droit d'avoir une console. Déjà, la télé, il a fallu avoir un peu de temps. Et je voyais ce petit personnage. Et en fait, moi, Mario, pour moi, c'est la rencontre avec le jeu vidéo. Ça veut dire un média que je connaissais pas, que personne ne connaissait vraiment, avec du mouvement, de la lumière, des sons. Et puis quand on prenait la manette, on dirigeait le personnage. Et cette rencontre, finalement, qui est devenue assez symbiotique entre le joueur et le héros, bah, m'a ouvert les yeux vraiment.
Rui Pascal, vous, votre première rencontre?
Moi, c'était fait avec la NES. Donc je devais être ado, 13-14 ans. Mais je remercie Marcus de m'avoir rappelé aussi qu'il y avait la planète Donkey Kong, parce qu'effectivement j'ai joué très très longtemps aussi à ces petits jeux électroniques, puisque comme tu disais, il était déjà apparu. Ah, oui, et j'aime bien ce côté quand même très pixelisé, très coloré. C'est vrai qu'il y a un univers onirique dans Mario qui est assez incroyable. Et non, j'ai passé beaucoup de temps, effectivement. D'ailleurs, je voulais souligner qu'il y a aussi un dessin animé qui existe de Mario qui vaut ce qu'il vaut, dans un autre genre qui a été créé par un des papas d'Inspecteur Gadget, Andy Howard aux États-Unis, qui est sorti à la fin des années 80. Je ne sais pas si vous connaissiez. Et c'est aussi mi-live, mi-dessin animé aussi pour l'anecdote.
Et Marcus?
Alors moi je suis très très vieux, donc j'ai connu des jeux comme Pong.
Non, pas si vieux que ça.
J'ai connu Pong en noir et blanc qui faisait des bips. Après j'ai eu la chance, un progrès incroyable, d'avoir une Atari 2600 avec 8 couleurs et des petits bonhommes qui ressemblaient encore à des, tu sais, des bonhommes sur la porte des toilettes. Tu vois, c'était ça à l'époque, le jeu vidéo. Et tout à coup chez mon tonton, il y avait alors pas une NES, mais une CBS ColecoVision, parce qu'ils avaient des accords avec Nintendo, et il y avait Donkey Kong dessus, qui était d'ailleurs livré avec la console. Et tout à coup, bah il y avait un personnage qui avait une vraie gueule. C'était pas le bonhomme sur la porte des toilettes. Il avait un gros nez, une moustache, un petit embonpoint. Donc bon, j'étais jeune, j'étais pas encore gavé de pâte à tartiner chocolatée, donc je me sentais pas concerné, mais il était sympathique. C'était un cartoon en fait, et ça c'était génial. Il y avait vraiment sur cette console, il y avait ça, il y avait Zaxxon qui était l'équivalent du final de la guerre des étoiles dans la tranchée de l'étoile noire et tout. Voilà, c'était une console qui vraiment me fascinait pour l'époque. J'avais pas les moyens de l'avoir, elle coûtait un peu plus cher que mon Atari 2600. Donc j'allais jouer chez mon tonton, voilà.
Alors Mario est un personnage culte, hein, connu bien au-delà du monde du jeu vidéo, parce que même si on n'a jamais touché une console de sa vie, on sait qui est Mario. Chloé Brassière, un peu la taute de l'équipe, hein, c'est notre écuyère, elle va comme ça pourfondre les méchants, est allée demander au monde du dehors quel souvenir le plus illustre des plombiers leur évoquait.
Ouais, j'ai déjà joué à Mario. Mario classique un petit peu, et Mario Kart surtout.
Mon premier Mario, c'était Mario 64 sur NES. Et du coup, mon souvenir que j'ai, je jouais avec mes frères et sœurs quand j'étais petit, j'étais vraiment tout petit.
Moi, en fait, j'ai joué à Mario, surtout quand j'étais pas plus haut que trois pommes, parce qu'en fait, on avait la Super NES à l'époque. Il y a quelques années, on a ressorti la Super NES qui était dans le grenier, et du coup, c'était sympa parfois de la brancher avec ses amis. Bon, même si deux maximum, voilà, on fait une partie à deux, et puis on est content, ça rappelle des souvenirs, quoi.
Je suis nul, donc je préfère pas y jouer.
Depuis toute petite, je joue à Mario. J'ai toujours adoré le jeu. La plupart du temps, ouais, je joue avec des amis, sinon je fais assez souvent, mais le graphisme, les personnages, le gameplay, l'univers en entier, en fait, pratiquement tout me plaît dans le jeu, en fait.
Le personnage est marrant, le personnage principalement.
Les hommes moustachus, ça me plaît bien.
C'est pas ma licence préférée, mais j'y joue.
C'est l'un des premiers jeux quand j'étais petit, donc forcément quand j'y rejoue maintenant, bah, c'est trop cool, quoi. Je retombe dans ça. Après, bon, à part ça et Mario Kart, je joue rien d'autre.
Moi j'ai joué quand j'étais petite, donc forcément c'est une enfance, on va dire. Bon, pas l'histoire parce que c'est toujours la même. Ça pique un peu, mais pour dire, même ma grand-mère elle joue à Mario sur sa DS, donc c'est que tout le monde peut le faire, quoi.
Enfin, en fait, tout le monde s'en fout un peu de l'histoire. Enfin, c'est un plan B qui va sauver une princesse et tout. Au final, c'est le jeu qui est fun, quoi.
Alors je rappelle que vous pouvez tout le mois de juillet via notre répondeur nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète 01 56 40 30 20 sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire Mario, les jeux vidéo Mario, l'univers de Mario, les souvenirs d'enfance que vous pouvez avoir. N'hésitez pas, c'est votre émission, c'est votre répondeur. Julien Chèche, vous vouliez intervenir, je crois.
Bah, je crois que pour résumer, pourquoi Mario, il est dans la tête de tant de gens, même des gens qui peut-être n'y ont pas beaucoup joué. Je crois qu'il y a une composante qu'on oublie souvent, c'est la musique. Et à l'image de Star Wars, d'Indiana Jones, où on tout de suite, instantanément, le thème nous reconnecte à nos souvenirs, eh ben Mario, on peut le chantonner. On l'a entendu plein de fois là dans les génériques, vous illustrez avec cette bande-son que tout le monde connaît. Et même si on n'a pas trop joué, on fait « Ah, mais c'est Mario !» Et ça, je trouve que c'est assez rare dans l'histoire du jeu vidéo. Il n'y a pas tant de séries qui ont un thème aussi marquant.
C'est vrai que la musique était importante. Et même Ken Kojandi, de Bref, s'amuse de temps en temps à le jouer au violon dans certains salons ou en one man.
Mais d'ailleurs, il y a toute une génération d'humoristes qui sont de grands gamers et pour lesquels Mario est très important. D'ailleurs, ils m'envoient des SMS assez souvent. On me dit « Il faudrait que tu parles de ça. »
Il y a un truc qui est assez intéressant aussi dans le micro-trottoir qu'on vient d'entendre, c'est que les gens citent Mario, ils citent aussi Mario Kart et tout. Et c'est une grande composante, à mon avis, du succès de Mario prolongé au fil des décennies. C'est que Mario a été adapté dans plein de types de jeux différents. Et à chaque fois, ça a donné soit à minima des bons jeux, soit des jeux qui redéfinissent, ou en tout cas qui créent quelque chose. Et Mario Kart, c'est un très très bon exemple pour ça, parce que Mario Kart, c'est encore un jeu différent, comme Poulet Smash Bros, par exemple, des choses comme ça. C'est Nintendo cherche des pistes, mais le logo, le personnage Mario dessus pour attirer un peu l'attention et généralement fait de très bons jeux derrière. C'est des équipes bis qui bossent dessus qui font du très très bon boulot aussi et qui permettent aussi de encore populariser le personnage au-delà de ses jeux à lui, classiques de plateforme, etc.
Et permettant en plus de jouer à plusieurs, ce qui est d'autant plus jouissif.
Ouais. Et dernièrement d'ailleurs, on l'a retrouvé dans un jeu de tennis, je crois.
Oui, il y a un Mario Tennis qui vient de sortir là. C'est pas le premier, il me semble.
Le premier sur NES, sur te dire.
Également le, alors ça c'est un goût personnel hein, mais je trouve le brillant Mario et les lapins crétins avec un dernier DLC qui incorpore Donkey Kong qui est formidable. Et si vous avez une Nintendo Switch, je ne saurais que trop vivement vous le conseiller. Alors on a parlé de Mario, mais il y a aussi tout un univers, tout un bestiaire autour de lui que j'aimerais qu'on évoque aussi, parce que il y a notamment son frère qui pour moi est une sorte de victime éternelle mais qui mérite d'être évoqué.
Dans l'ombre, Luigi, c'est le mec de l'ombre.
Luigi, voyons, parlons de Luigi.
Mais Nintendo a réussi en jouer aussi, c'est-à-dire que Luigi, qui était le faire-valoir un peu, qui était, en fait c'était le player two, enfin, voilà, c'était le deuxième joueur quand on jouait à deux à Mario, donc c'était
juste un changement de couleur d'ailleurs.
Exactement.
Maintenant, il le dessine, il est un peu plus maigre que Mario, mais au début c'était juste la palette de couleurs.
Ils l'ont fait un peu en mode Laurel et Hardy ensuite, en agrandissant un petit peu Luigi et tout. Et Luigi est devenu, au fil des jeux, il a même eu ses propres jeux à lui, il est devenu un personnage à part entière dans sa Quardise, son côté un petit peu marrant, un petit peu slapstick, genre Buster Keaton. C'est un personnage qui est devenu un peu comique, mais dans le bon sens du terme. C'est qu'ils ont réussi à le récupérer pour en faire un anti-héros sympathique et attachant. Et Nintendo était allé jusque, il y a quelques années, fêter l'anniversaire de Luigi. pas l'anniversaire de Mario, l'anniversaire de Luigi. Ils ont fait une année de Luigi avec des consoles de la bonne couleur, des choses comme ça. Et c'était assez rigolo de voir cette revanche justement sur le petit père à gros ventre.
Il y a une polémique d'ailleurs sur leur nom de famille, puisque le jeu s'appelle Mario Bros. Donc c'est les frères Mario. Donc ça veut dire qu'ils s'appelleraient Luigi Mario et Mario. Comme si les frères Bogdanov, ça fait les frères Igor ou les frères Grishka.
Blockbuster, c'est une émission où on sort des anecdotes qui peuvent révolutionner la vie de quelqu'un. Et là, je pense qu'on vient de la sortir. Là, il y a des gens, ils sont oh non, c'est pas vrai, vous avez caché mon enfant.
mais d'ailleurs, entre les deux frères, qui finalement pécho la princesse? Est-ce qu'il y a une baston?
Alors, mais en plus, ça, c'est une réponse qui a été apportée parce qu'en fait, je crois que Mario et Peach, alors ça reste un jeu pour enfants, ont une relation, mais Daisy et Luigi sont aussi s'entendent bien.
Daisy qui est l'ex de Mario d'ailleurs. Enfin, c'est quand même un peu bizarre.
Yoshi, il est très attachant.
C'est une grande
famille.
Alors on va s'arrêter là.
On va pas intégrer Yoshi.
Vous écoutez France Inter, il est 11h29 et c'est l'heure des chiffres. Je vous donne des chiffres et vous me dites à quoi ça correspond. Si je vous dis le chiffre 1900, c'est même une année, hein, c'est 1982, c'est l'année de naissance du personnage de Mario, l'année de sortie du jeu Donkey Kong ou l'année d'apparition de Luigi? 1982.
Mario?
Ce ne seraient pas les deux premières?
Je dirais Luigi parce que 81, je crois que c'est Donkey Kong, Mario. Et 82, c'est Mario Bros. Donc je dirais apparition de Luigi.
Ok, donc l'apparition de Luigi 82.
Pas sûr. Mais...
Moi, je dirais les deux premières, Donkey Kong et l'apparition de
Luigi. Oui, bah, autant dire les trois comme ça. Je dirais les trois comme ça. C'était la première réponse. Mario, c'est l'année de naissance du personnage de Mario. Luigi est apparu en 83 et Donkey Kong en 81.
Parce que dans Donkey Kong, c'est pas Mario. C'est Jumpman.
Oui, c'est vrai.
C'était quand il était charpentier.
Avant d'être plombier. On considère que c'est une bonne réponse, Julien. Ouais. Si je vous dis le chiffre 4, c'est en millions le nombre Game Boy vendu au Japon en 4 mois après la sortie de Super Mario Bros. En 85, le nombre de pièces étoiles à récupérer à chaque niveau dans le Super Mario Bros. Wii, ou en dizaines le nombre de véhicules dans Mario Kart 8 Deluxe.
Oula, ah, la colle.
Là, on est dans du bon niveau. Là.
C'est du high level. Hein, oui. C'est le cas de le dire.
Oui. Mais là, je sais que les auditeurs
disent
que
c'est 8 ans, c'est
facile. Je dirais la 2.
La 2 aussi.
Le nombre de pièces étoiles à récupérer à chaque niveau dans le Super Mario Bros. Wii 3 C'est une mauvaise réponse. C'est en millions le nombre Game Boy vendu au Japon en 4 mois après la sortie de Super Mario Bros. En 1985.
Le nombre de Game Boy,
ils ont vendu 4 millions.
Super Mario Bros, c'était sur NES, c'était pas sur Game Boy.
Il y a eu Super Mario Land, peut-être.
Alors, on a commencé à être tatillon pendant le jeu. Il y a les variantes de mauvaise foi, ça va pas le faire.
Les chiffres parlent d'aller sur du pointu, on va sur du pointu. Voilà.
Si je vous donne le chiffre 24, c'est l'âge auquel Shigeru Miyamoto intègre la firme Nintendo, c'est l'âge auquel il sort le premier Super Mario Bros sur NES, ou le nombre d'épreuves que doivent passer Sonic et Mario dans Sonic et Mario aux Jeux Olympiques.
Oh, y a pas tant d'épreuves que ça, je crois.
24.
Miyamoto.
24.
Ça va tourner autour de Miyamoto.
Je vais le dire en anglais parce que ça fait plus impressionnant.
Son âge quand il rentre chez Nintendo.
La deuxième, c'est quoi? C'est Miyamoto.
C'est l'âge auquel il sort le premier Super Mario Bros sur NES.
Moi, je dirais que c'est l'âge auquel il rentre.
Il rentre chez Nintendo, ouais.
Non, il
rentre. Eh bien, c'est en partie une bonne réponse. C'est effectivement l'âge auquel Shigeru Miyamoto a intégré la firme Nintendo. Mais c'est aussi le nombre d'épreuves que doivent passer Sonic et Mario dans Sonic et Mario aux Jeux Olympiques.
Un demi-point.
Jeux Olympiques.
Mais oui, il y en a énormément. Écoutez, moi je trouve que c'est quand même un score très honorable. Hein. Donc pour vous récompenser, on va écouter un jeune artiste français. Il est tout nouveau. Il s'appelle Voyou. Voyou. Et d'ailleurs, Ah non, c'est pas Voyou en fait,
Fripon.
C'est Gorillaz. C'est pas un jeune artiste. C'est pas un jeune artiste du tout. C'est Gorillaz. Donc on va écouter Gorillaz.
Ah oui, c'est différent. Voilà.
D'où vient de mes idées? Je me dis, tiens, ce serait bien de chevaucher un dinosaure, et on a créé Yoshi. Et puis, ce serait super de pouvoir voler, et on a créé un chapeau avec des ailes. Allez. Right now, that's the ball where we betray. And if you're coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the pictures while I'm calling. I don't want
C'était Humility des Britanniques Gorillaz. Leur dernier album The Now Now est sorti il y a quelques semaines et ils seront en concert le 21 juillet au Vieille Charrue et le 22 juillet au festival Lollapalooza de Paris. On va revenir donc sur Mario, sur celui qui nous intéresse. Et donc on a parlé du folklore, de tout l'univers autour de Super Mario, on a parlé de Luigi. On n'a pas parlé aussi des personnages féminins dans Mario. Parce qu'il y a quand même des choses à dire. La princesse Daisy qui est tout le temps enlevée par Bowser et qui n'a pas vraiment ce mot à dire, c'est quand même hyper réactionnaire.
Est-ce qu'il y a seulement le syndrome de Stockholm? Est-ce qu'elle peut s'intéresser à son geôlier? On ne sait pas. C'est vrai qu'à part dans les jeux, à part alors, comme Mario Kart et je sais pas, Mario Striker qui fait du foot, etc. Elle a vraiment une présence pas très intéressante. C'est vraiment le truc qu'on va chercher. Quoi,
on est dans
la
potiche du jeu
qui
là.
Attend. Voilà. Mais bon, ça c'est tous les contes de fées sont un peu comme ça, finalement. Mais il serait temps qu'elle prenne sa revanche quand même.
Mais là, dernièrement, j'ai l'impression que Nintendo essaie un petit peu de changer ça, Olivier Bénis.
Ils tentent, en tout cas, ils essaient de limiter le côté demoiselle en détresse. C'est-à-dire que dans les derniers jeux, elle apparaît, déjà, elle parle plus, elle a des interactions un peu plus intéressantes. Et puis, ils ont assumé son côté monarque parce que c'est une princesse, donc elle est quand même très respectée dans son royaume. Il y a notamment, pour ceux qui s'intéressent à Mario et qui les connaîtraient pas et qui aiment bien, qui seraient tentés de se lancer dans un petit peu de jeu de rôle, mais vraiment très soft, il y a les Mario & Luigi qui est une série un peu parallèle de Mario avec des aventures un peu en Final Fantasy facile quoi, accessible, où justement ils développent beaucoup plus le vrai rôle de la princesse. Alors elle continue à se faire enlever assez régulièrement, mais généralement il y a toujours une sorte de twist qui
cette
est
phrase tellement surréaliste. Oui, la princesse continue de se faire enlever régulièrement, mais voilà.
Avec elle déclenche même plus l'alerte enlèvement maintenant.
Il y a des twists des fois où elle se sauve toute seule, ou en fait c'était un plan depuis le début pour tromper tout le monde, enfin des choses comme ça. Et en fait, elle a un peu le côté caution cerveau que n'ont pas forcément Mario et Luigi dans certains cas, qui fait que certes, elle a toujours ce rôle qu'elle subit un peu de demoiselle en détresse, mais elle est beaucoup plus forte par rapport à ça que ce qu'on pense et elle se laisse pas faire non plus.
Mais dans un autre genre de victime, il y a aussi Yoshi, c'est le souffre-douleur. Mais bon, il est un peu plus actif quand même. Parce qu'à chaque fois, il tire la langue quand l'autre l'assomme.
Oui, exactement.
Mais il meurt régulièrement, c'est avec Yoshi, c'est le personnage qu'on abandonne dans un trou à un moment parce qu'il faut passer. Enfin bon, c'est terrible.
Mais je suis surpris quand même du rôle de la princesse dans Mario, parce que chez Nintendo, on voit par exemple dans l'autre grande saga qui est Zelda, justement, le nom du jeu, c'est la princesse Zelda. Et puis de plus en plus, depuis maintenant une bonne décennie, le personnage a pris énormément d'étoffe, est devenue intéressante, parle, s'implique, vraiment est un personnage de soutien de Link, et pas du tout dans Mario. Alors il y a eu quand même un épisode de la Princesse Peach dédié, mais c'est vrai qu'il a été assez rapidement oublié, alors je ne peux imaginer que Nintendo ne mette pas un peu de lumière quand même un moment sur
la princesse. Pour Zelda, ça va tellement loin qu'il y a même quelqu'un qui est en train de créer une modification du jeu Breath of the Wild, le dernier, pour qu'on joue Zelda. Ouais. Il a modifié tous les graphismes du jeu.
J'ai signé beaucoup de pétitions pour ça.
Non, mais c'est vrai. Je m'étonne pas de vous.
Ce serait le moment. On revient de l'E3 à Los Angeles, qui est le plus gros salon de jeux vidéo du monde. On présente toutes les nouveautés. Il y a énormément d'héroïnes cette année. Ça a commencé déjà un peu l'année dernière avec Horizon Zero Dawn et d'autres trucs. Tomb Raider, évidemment, toujours Lara Croft. Mais Last of Us, c'est une fille. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de filles. Donc, c'est vrai, tiens, faisons une pétition pour que Nintendo fasse un personnage jouable de cette pauvre princesse. Oui, qu'elle soit dans une geôle, qu'elle s'en sorte elle-même pour faire le chemin inverse. On part de la geôle et on revient au début du niveau.
Et Bowser, le c'est un dragon?
Non, on n'a pas envie d'avoir un jeu avec lui. Alors, on l'a entendu, Super Mario est un personnage extrêmement aimé. Chaque sortie d'un jeu est un événement. Mais n'oubliez pas, et je sais qu'autour de cette table, vous ne l'oubliez pas, que quand on parle de jeux vidéo, il y a forcément des gens qui n'aiment pas.
Les géants japonais investissent des sommes colossales dans la recherche. Les jeux qui sortiront seront dans quelques mois ou quelques années toujours plus puissants, toujours plus réalistes. Il n'y a guère plus que les rêveurs et les poètes pour affirmer qu'il reste possible de s'amuser avec deux bouts de bois et un morceau de ficelle.
Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, les jeux vidéo. Certains accros passent jusqu'à 8 heures par jour devant leur écran. Ils en oublient de manger, délaissent le travail à l'école. Bref, le phénomène commence à poser problème.
L'addiction aux jeux vidéo est presque aussi forte qu'un produit stupéfiant.
Nous avons maintenant suffisamment de recul. Avec l'avènement des jeux vidéo en ligne, on a commencé à percevoir une minorité qui petit à petit vont à un moment trouver une forme de refuge qui nous fait penser à une forme d'addiction dite comportementale, puisqu'il faut quand même préciser, le jeu vidéo en soi n'est pas une drogue, mais tout plaisir peut avoir un destin addictif.
Alors, je n'ai que des joueurs autour de moi, donc j'ai envie de vous demander, vous pauvres malades, oui, vous qui ne mangez pas, vous qui êtes prêts à aller massacrer des gens dans la rue.
Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Ça me fait pas rire du tout parce que là, il y a quelques jours maintenant, il y a l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a acté, alors qu'il n'y a aucun consensus scientifique, il y a beaucoup de laboratoires qui ont mené des études, qu'il y avait une addiction potentielle aux jeux vidéo, et donc, ça devient considéré comme une maladie. Pas le jeu vidéo, hein, mais les comportements excessifs. À aucun moment, on se demande, et même là dans ce qu'on imaginait, ce qu'on entendait, et le rôle des parents, et le rôle de l'éducation. Tout comportement extrême...
Les quoi?
Les parents. L'éducation. Voilà, les termes un peu galvaudés, mais que ces personnes...
C'est les gens qui paient le loyer pour...
C'est ça. Et moi, je trouve ça un peu effrayant, parce qu'on peut effectivement avoir une pratique excessive de beaucoup de choses. On peut jouer 12 heures au piano, et ça sera excessif. On peut s'enfermer dans un livre, et ça deviendra excessif. Et on peut s'enfermer dans le jeu vidéo, et ça deviendra excessif. Mais il faut des carcans,
évidemment. On peut être un député en marche, et ça devient excessif.
Non, mais les propos étaient assez affligeants.
Ça date d'une époque où les gens étaient beaucoup plus accros à la télé, c'est-à-dire que les chiffres de gens qui regardaient la télé étaient bien pires que ceux des gens qui regardaient les jeux vidéo et qui passaient leur vie devant. Donc c'est toujours drôle de voir comme la télé. Souvent, c'est la télé qui dit du mal du jeu vidéo.
L'OMS
pour se protéger, en fait, évidemment, parce que quand on joue sur une console, on regarde plus la télé.
L'OMS a intégré l'addiction aux jeux vidéo sans intégrer l'addiction justement aux autres écrans, c'est-à-dire soit la télé, soit les smartphones, soit les réseaux sociaux. C'est quand même un peu étonnant.
Mais d'une manière plus général, de toute façon, dès qu'il y a un phénomène de mode, que ce soit le jeu vidéo, le rap, etc., il y a toujours une levée des boucliers d'abord, et puis après, petit à petit, on finit par connaître un peu plus le média.
Ce qui est assez récurrent, c'est que c'est souvent des phénomènes de mode qui touchent les jeunes, comme si, en fait, dès que ça venait de la jeunesse, c'était forcément quelque chose d'extrêmement mauvais, comme si la jeunesse n'était pas capable d'apprécier quelque chose de qualité ou une nouvelle forme d'art.
Et puis, il y a toujours un côté reproduction générationnelle, c'est-à-dire que la génération d'avant a toujours envie que la génération d'après voit les mêmes choses, joue aux mêmes choses et tout. On avait l'exemple vraiment caricatural du bâton et la ficelle. Et puis c'est pareil, nous on a grandi avec les jeux vidéo et tout, la génération d'après grandira peut-être avec encore autre chose, et on sera peut-être les premiers aussi à râler en disant à l'époque, on savait s'amuser avec une Famicom et une NES.
Il y a plein de gens vieux qui jouent, on l'a entendu d'ailleurs dans le témoignage.
Regarder autour de cette table, et il faut savoir qu'en France par exemple la moyenne d'âge du joueur c'est 35 ans, donc on peut pas qualifier ça des très très jeunes. Il y a toutes les franges de la population. C'est-à-dire que je trouve que la société va beaucoup plus vite que souvent les gens qui essayent de régir un peu la chose. C'est terrifiant.
Je ne suis pas boiteux, alors pourquoi Luigi est toujours le joueur 2? Putain, ça me saoule, Mario fait des couves pendant que Luigi est derrière l'onde tout petit. Sa meuf s'appelle Peach, c'est le nom d'une brioche. S'ils font un gosse, putain, il sera méga moche. Mario a du talent, ce n'est pas si sûr, vu que toutes ses cascades sont faites par une doublure. Tellement Mario pèse qu'il a sa figurine pèse. Il prend le melon, traîne avec Alain Delon. Il gère des go, prend des cachets illégaux. Mais le meilleur épisode, c'est quand je l'ai vu pécho Todd.
Et ben voilà.
Luigi aussi, il avait la rage.
Alors, j'ai beaucoup souffert.
C'est sympa, c'est votre
normal,
morceau.
C'est normal.
C'est normal. Oui. Alors, en fait, il y a un aspect dont on n'a pas parlé encore jusqu'à maintenant, c'est que Mario, c'est un personnage qui date et pourtant, il a su se réinventer au fil des ans. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est juste le génie de Miyamoto?
Il y a plusieurs choses, mais il y a quelque chose, à mon avis, qui définit vraiment Mario, et je vais revenir sur ce que je disais un peu au début, c'est que ils ont préservé le personnage. On entendait tout à l'heure dans les petites archives, les gens qui disaient les jeux vidéo vont devenir de plus en plus réalistes et tout. Mario, c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire que c'est pas aller vers plus de réalisme, c'est aller vers plus d'amélioration technique. C'est plus joli à regarder, c'est plus agréable, ça va plus vite, ça tourne bien. Mais il n'y a jamais eu tiens, on va passer Mario en super réaliste avec un filtre marron pendant la Deuxième Guerre mondiale et on va apprendre comment il est devenu pizzaiolo au retour de la lutte contre les nazis, enfin je sais pas.
Mario le préquel.
Mario le préquel. Non, ils ont gardé ce côté enfantin qui parle à tous. C'est ça aussi qui fait que ça marche. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel on retrouve tous au moins l'enfant qu'on était ou quelque chose de poétique, de joli, de mignon, de sans danger. On peut jouer à Mario avec son enfant à côté sans aucun problème. On sait qu'il n'y aura jamais de soucis avec ça. Et c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne encore, en plus de l'extrême qualité des jeux à chaque fois. C'est qu'il y a eu des suites de Mario qui n'ont pas été que des suites lambda, qui ont été aussi des redéfinitions du jeu vidéo. Mario 64, c'est une suite de suite de suite de suite, mais ça a éclaté tout ce qui existait à l'époque. Personne ne faisait de jeux comme ça avant.
Mais ce qui est intéressant, c'est que chez Nintendo, ils ont réussi, on parle beaucoup de Miyamoto, mais il faut quand même savoir que Miyamoto, depuis longtemps, n'est plus derrière Mario. Et justement, tu cites Mario 64, qui est, à mon sens, un jeu qui a redéfini l'industrie du jeu vidéo, qui a appris à faire de la plateforme dans trois dimensions. Mais c'est pas du tout Miyamoto qui est derrière. Il le supervisait un petit peu de loin. Mario Galaxy, qui a été aussi une autre rupture, en jouant vraiment avec les perspectives. Miyamoto, il supervise juste là. Et le dernier Mario Odyssey, c'est encore un jeune producteur. Et je crois que Nintendo, leur intelligence, c'est de mettre à chaque fois du sang-froid. Et donc des gens qui ont le poids de l'héritage de cette saga et qui se doivent de l'amener autre part, autrement, et qui le font avec beaucoup de talent.
C'est l'heure du blind test made in Blockbuster, un blind test consacré aux mascottes de jeux vidéo. Alors on sait que vous êtes tous très très forts autour de cette table, hein, donc on vous passe le thème et vous nous dites de quel personnage il s'agit et surtout de quelle société il est la mascotte. Son numéro 1.
Crash Bandicoot, Naughty Dog.
En me préparant cette émission, je me suis dit, ils vont trouver très très vite. Il n'y a que des gamers, donc forcément. Crash Bandicoot, effectivement, son suivant. Alors, ce n'est pas une musique du téléachat. Hein.
Eh oui, Maryse, alors pour 900.
Jet Set Radio sur la Dreamcast.
Jet Set Radio, mais il est incroyablement dans le faux. C'est pas ça du tout.
Ah non,
j'aurais pas. T'es déjà en train de dire t'es tranquille.
Ouais, bah non, pas du tout.
Non, c'est pas ça.
Pas mal la pirouette.
Bah non. C'est Rayman.
Rayman, mais oui, bien sûr.
Musique suivante.
Évidemment.
Sonic, c'est gars.
Évidemment, Sonic. Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse. J'avoue que moi, j'ai une tendresse tout particulière pour Sonic.
Mais alors, Sonic a un gros problème, c'est que son gameplay, son game design est antinomique. Ça veut dire que c'est un personnage qui doit aller très très vite, mais à la fois s'arrêter pour récupérer des pièces.
Oui.
Ça ne marche pas.
Mais Sonic, c'est surtout l'inverse de Mario, c'est-à-dire qu'il a jamais su gérer vraiment bien le passage à la 3D aux nouvelles techniques. Et le dernier bon jeu Sonic qui est excellent, c'est Sonic Mania qui est sorti l'an dernier et qui est un retour complet. Qui est un Sonic fait à l'ancienne et tout, et ça marche.
Et d'ailleurs, je crois que depuis hier, on peut avoir Sonic Mania Plus qui permet de jouer avec Ray et
Mighty, il me semble.
Mighty, voilà, les deux personnages qui étaient dans la version 3D de la bande d'arcade de Sonic. Son suivant.
Mais ça, c'est Final Fantasy.
Ben oui, mais il y a
6, Final Fantasy 6.
Oui, mais ce sont les.
Les chocobos. Ah, ça,
les chocobos, voilà, okay. Évidemment, voilà. Les chocobos.
Mais c'est la musique des chocobos de FF6.
Oui,
meilleur épisode de la série.
Son suivant. Un jeu de plateforme aussi, qui ensuite a été adapté dans une gamme de jeux, de jouets, qui s'est beaucoup vendu.
Ah, les
Skylanders.
Oui.
Skylanders, et donc, Activision.
Donc,
Spyro.
Bonne réponse de Marcus. Et enfin le dernier.
Donkey Kong Country Super Nintendo.
Bon bah écoutez, voilà. Je crois quand même que là on a un Julien Chiez très très en forme.
Mais musique de jeux vidéo, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que la musique au cinéma, dans les jeux, c'est au moins 50% de l'émotion qu'on retire.
Et là, j'imagine qu'il y a plein de désirs qui font « Oh mon Dieu, il écoute que des musiques de jeux vidéo !»
Non, non, non. À l'époque, à Game One, avec Marcus d'ailleurs, j'avais une rubrique qui s'appelait « La Zig Zone » où je parlais de jeux vidéo et de musique de jeux vidéo. Je trouve que c'est extrêmement important.
Eh bien, vous avez gagné cette fois-ci, c'est la bonne, ce jeune artiste, Voyou, qui est de retour et qui a sorti son premier EP. On s'emmène avec toi et on l'écoute tout de suite avec Papillon. C'est Voyou avec son titre Papillon. Il a un album en préparation. Il sera en festival cet été, ce samedi au Francopholies de La Rochelle et dimanche 22 juillet aux Vieilles Charrues.
Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre. Elle est en danger. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre.
Il y a 40 ans, arrivait sur nos écrans un robot géant qui allait révolutionner les programmes jeunesse français. Un robot avec des cornes qui balançait des attaques aux noms tels que Vulgaro Point, Astéro H. Un robot piloté par un extraterrestre au look de hippie nommé Actarus qui jouait de la guitare dans des champs et qui avait le spleen. Un robot que l'on appelait Goldorak. Oui, Pascual, aujourd'hui c'est donc c'est l'anniversaire des 40 ans de Goldorak, mais est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce personnage incroyable ?
Bah, c'est les 40 ans de la diffusion en France. En fait, les 40 ans au Japon sont déjà là depuis un petit moment. Ça a été un peu tumultueux puisque, en fait, pour résumer, c'est le concours de plusieurs hommes qui ont contribué à l'arrivée de Goldorak en France. Bruno René Huchez et Takao Matsumoto qui travaillaient pour Marubeni, qui faisait de l'import-export au Japon avant que Takao passe chez Toei Animation, qui ils ont mis en relation ensuite avec un monsieur Guy Maxence, à l'époque à Antenne 2, donc devenu France 2. Guy Maxence qui était à la direction de la chaîne. Il n'y avait pas vraiment d'unité jeunesse, et contrairement à la légende, c'est pas vraiment Jacqueline Joubert qui a contribué à l'arrivée de Goldorak. Excusez-moi de casser un peu le mythe. En fait, elle a
je reviens.
Elle a eu le truc tout cuit entre les mains parce que les tractations étaient déjà passées. Quand elle arrivait à l'unité jeunesse d'Antenne 2, dès la fin de 77, avec l'arrivée le 3 juillet 78 précisément de Récréa 2, puisque c'était aussi la première de Récréa 2, donc on fête aussi et les 40 ans de Récréa 2 et les 40 ans de Goldorak. Goldorak était déjà là, acté avec surtout l'homme le plus important qui l'a distribué en France, qui a permis son arrivée, c'est Jacques Canestrier. Son nom ne dit rien, c'était un homme de l'ombre qui avait sa société Pictural Film, et c'est lui qui a fait venir Goldorak, Candy, Albator et tant d'autres en France.
Et alors Goldorak, qui au Japon s'appelle Grandizer.
UFO Robot Grandizer, voilà. Tout à fait.
Et qui en fait a eu beaucoup moins de succès au Japon qu'il n'en a eu en France.
Oui, effectivement, parce qu'il faut aussi comprendre que à travers le personnage d'Alcor, qui s'appelle Koji Kabuto au Japon, qui est d'ailleurs un peu plus tout feu tout flamme, Actarus c'est un petit peu plutôt le prince romantique, etc. Il y avait déjà des séries préexistantes de robots de ce style, dont le fameux Mazinger Z qui est passé un petit peu inaperçu en France. Donc c'était qu'un énième qui arrivait dans cette lignée.
Et alors, donc en fait, ici c'était un spin-off en fait, Goldorak, c'était un spin-off de Mazinger Z. Et qu'est-ce qui explique l'engouement phénoménal en France pour ce personnage ?
Mais je pense, en fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'était la première fois, alors contrairement là aussi aux idées reçues, c'est pas le premier dessin animé japonais à être arrivé en France. Il y en a eu d'autres avant, mais disons que ça a été le premier dessin animé japonais marquant sur les écrans. Et Goldorak a fédéré dans le sens où c'était quand même la première fois qu'on voyait un robot piloté de l'intérieur. Il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que nous on sortait un petit peu de Disney, des univers Guimauve, de Casimir, etc. Et tout d'un coup, ça rompt avec la douceur.
Je confirme.
Voilà, on a un Fulguro
qui perdait leur chaussure gauche à la télé, c'était le seul événement qui arrivait. Et tout à coup, il y a Goldorak.
Voilà, il y a un robot
samouraï monstrueux avant le succès. Ça a été décrié, des japonaiseries, machin. Ah, on a entendu pire que
ce qu'on a évoqué.
Même sur le générique, puisque en fait, on parlait de race, on parlait de la race humaine. La chanson que vous avez diffusée, il y a eu Tollé, grève des syndicats et compagnie. Mais en fait, un petit peu comme d'habitude, on a vu que c'était tout un foin, mais que c'était pas si grave.
Et voilà, c'est pas si grave, on s'arrêtera là-dessus. Je vous remercie tous et toutes, tous, en fait, il n'y a que des garçons autour de la table, pour votre participation. C'est la fin de cette émission. Demain, on se retrouve pour parler canapé, série et plan de domination mondiale. On va parler de Netflix.